Cube Radio. Vous l'avez vu? Vous l'avez lu? Maintenant, entendez-le. Avec Antoine Joubert et Germain Goyer, le guide de l'auto. Cube Radio.
Bonjour tout le monde, bienvenue au Guide de l'auto, édition de l'Halloween, édition du 31 octobre 2020.
Félicitations pour ton costume de citrouille, Antoine. Même si les gens à la maison ne nous voient pas parce qu'on est à la radio, merci d'avoir fait cet effort pour moi.
Ça fait grand plaisir et je te renvoie à l'ascenseur parce que t'es déguisé en personne qui ne se déguise pas aujourd'hui. Donc, voilà. T'es distinct de tous ceux qui circulent actuellement dans les studios de Cube Radio qui... Disons-le, fêtait ses 2 ans tout récemment.
Oui, hein? Voilà.
Bon, on commence par une série d'actualités. On va parler après ça des véhicules de la semaine. T'en as conduit un qui est assez particulier, le Ram TRX. On y reviendra un peu plus tard.
Mais pour moi, l'actualité qui a retenu notre attention cette semaine, Antoine, c'est le prix qui t'a été décerné par l'Association des journalistes automobiles du Canada, l'AJAC. Donc, c'est un prix en vidéojournalisme pour la capsule Rouler au suivant, avec laquelle t'as fait renaître un véhicule, finalement. Un véhicule qui était sur le bord d'être envoyé à la casse. Là.
Oui.
Et il a été remis en état par une équipe d'experts. Et toi, t'as documenté le tout. Et ça fait une pas pire capsule, franchement.
Ben voilà, en fait, merci de m'envoyer de me lancer des fleurs, Germain. Ça arrive pas souvent.
Le pot s'en vient.
Oui, c'est ça. Mais on a eu... ça a été quand même un travail assez ardu de coordonner tout ça et d'en arriver au résultat que vous avez vu. Évidemment, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller revoir ça sur le site du Guide de l'auto sur mes réseaux sociaux. Vous pouvez retrouver la vidéo ou le googler tout simplement, rouler au suivant. Alors, on a restauré en fait un Hyundai Tucson qui était pratiquement bon pour la casse et on l'a ensuite...
J'enlèverais le pratiquement, là.
Oui, c'est ça. Puis on l'a donné ensuite à une famille qui en avait besoin.
Oui, voilà.
C'est un peu l'objectif de l'émission, mais aussi l'objectif, c'est de mettre en lumière tous les métiers de l'automobile qui sont méconnus ou sous-estimés parce qu'on connaît c'est quoi le domaine de la vente automobile, des voitures neuves.
Parce que c'est le contact direct que le consommateur a souvent avec l'automobile. C'est le vendeur qui est dans le bureau, mais le monsieur qui répare des morceaux de plastique ou qui va restaurer des phares ou qui vend des pièces de voiture, souvent on ne voit pas ces facettes-là de l'automobile.
Non.
Et là, on le voit dans ce reportage-là.
Donc, mécanique, carrosserie, esthétique, débosselage sans peinture, tout ça, on met ça en lumière. Évidemment, on veut aussi... L'objectif pour moi avec une émission comme celle-là, c'est de prouver aux gens qu'au Québec et au Canada, on jette nos choux gras. On prend des véhicules qui, honnêtement, sont encore bons pour rouler. C'est des véhicules qui ont été négligés, donc qui n'ont pas été entretenus de façon adéquate et ça donne des véhicules qui, prématurément, pourraient se retrouver à la casse.
Si on fait simplement investir le montant des frais de transport et préparation que nous coûterait un véhicule neuf, mais qu'on dépenserait ça dans le véhicule qu'on possède déjà, il y aurait moyen de le remettre en pas pire shape.
C'est-à-dire qu'en restaurant un véhicule comme on l'a fait là, les gens m'ont posé la question, combien ça a coûté, Antoine? Bon, il faut figurer autour de 10 000 $ ce qu'on a fait sur le Hyundai Tucson. Ce qui est beaucoup de sous pour un véhicule de 15 ans.
Mais ça faisait combien d'années qu'on n'avait pas dépensé un seul sou dans ce Tucson-là?
Premièrement, puis deuxièmement, évidemment, pour les besoins du show, on a voulu démontrer quelques trucs supplémentaires. Donc, est-ce que le wrap de peinture était nécessaire? Peut-être pas. C'est évidemment, juste ça, c'est un travail d'à peu près 3 000
$ Est-ce que d'avoir des nouvelles jantes, par exemple, c'était... Tu sais, des pneus, c'est nécessaire, les freins, c'est nécessaire. Je pense que tout ce qui a été apporté comme traitement à l'intérieur, ça aussi, c'était nécessaire.
Oui, c'était plus que nécessaire.
Mais on est allé dans le cosmétique aussi, pas dans le tape à l'œil, mais dans l'idée de le rendre
un
beau.
Un peu dans le tape à l'œil.
Dans l'idée de le rendre beau à nouveau.
C'est ça. Fait que tout ça, ça a fait en sorte qu'on a mis plus de sous que quelqu'un n'aurait mis normalement, mais en même temps, on démontre que s'il y avait eu un entretien régulier fait sur ce véhicule-là, il n'y aurait pratiquement rien eu à faire.
Ouais.
Et le véhicule pourrait encore rouler. Donc, L'idée, c'est d'illustrer qu'un entretien minimum, ça peut être payant et c'est écologiquement intéressant de le faire aussi versus envoyer un véhicule à la casse et en fabriquer un nouveau qu'on va acheter sur un concessionnaire. Parce que l'impact de fabriquer un véhicule neuf est toujours plus grand que de continuer à faire rouler un véhicule pour lequel l'impact environnemental a déjà eu lieu.
On est d'accord.
Ça, c'est évident. Fait que c'est un peu l'objectif de cette émission-là. Et puis, l'AJAC m'a décerné le prix du meilleur vidéo journalistique automobile cette année. J'en étais bien, bien heureux.
Alors, bravo encore.
Merci bien.
Autre actualité, hein, parce que, les spotlights n'étaient pas que réservés pour toi. Il y a Mercedes et Aston Martin qui, dans une autre mesure, ont fait parler d'elles. On sait très bien, là, les moteurs d'Aston Martin proviennent de chez Mercedes. Donc, il y a déjà un lien qui est fort entre ces deux marques-là.
Il y a une technologie de plus en plus évidente provenant de chez Mercedes qu'on retrouve dans les Aston Martin de dernière génération.
Et toi qui en as conduit deux récemment, tu as pu être à même de le constater. Mais là, ce qu'on apprenait cette semaine, c'est que un petit constructeur comme Aston Martin, faire le saut vers l'électrique, c'est pas nécessairement facile, c'est pas nécessairement évident.
Non.
Ni même rentable sur le plan financier. Alors, c'est Mercedes qui va s'en charger en échange.
S'en charger?
S'en charger.
Oui.
Ah, voilà.
Oui.
C'était même pas fait exprès. Et on va faire ça en échange, là, évidemment, de part de l'entreprise.
Oui.
Donc, à terme de ce projet-là, Mercedes va posséder 20% des parts d'Aston Martin, ce qui est considérable.
Quand même pas, ouais.
Oui, voilà.
Et ça, c'est évidemment une part que ne possédera pas Lawrence Stroll.
Oh, le roi de la transition,
Le roi de la transition. Parce qu'on sait que Aston Martin est en partie détenu par Lawrence Stroll. Et là, Lawrence Stroll est aussi sur les nouvelles cette semaine parce que t'as eu vent d'une rumeur.
Oui, une rumeur qui est sur le point de se concrétiser là. Donc Lawrence Stroll, qui est propriétaire de la concession Ferrari à Montréal sur rue Jean Talon, serait sur le point de rendre les clés de l'endroit à un autre homme d'affaires de Montréal, Gad Bitton. Lui, on le connaît entre autres parce que il possède Holland Leasing, donc l'entreprise qui permet la location de véhicules de luxe, mais aussi qui
possède Rolls-Royce Montréal.
Exactement, qui possède la bannière Rolls-Royce à Montréal et Lamborghini à Palm Beach et quelques...
deux concessionnaires BMW de la région de Québec aussi.
Oui, voilà. Ouais. Donc, c'est lui qui se serait porté acquéreur de l'endroit. Il y a une offre qui a été déposée, il y a une offre qui a été acceptée et il reste juste à finaliser l'entente. Il resterait juste à finaliser l'entente. Parlons au conditionnel parce que c'est pas encore complété. Et
moi, je me souviens d'il y a quelques semaines, au moment où on était allé essayer ensemble, toi et moi, la Ferrari Roma, je me disais, tiens, Ferrari qui lance une voiture pour rivaliser avec Aston Martin et Lawrence Stroll qui joue sur les deux terrains en vendant des Ferrari et en s'impliquant chez Aston Martin, il a choisi son camp, clairement.
Oui, parce que c'est une chose de posséder plusieurs concessionnaires, parce qu'on voyait les réactions sur les réseaux sociaux. Oui, on peut posséder plusieurs concessionnaires de plusieurs bannières, mais d'être un membre actif d'un constructeur et d'avoir un concessionnaire d'une autre marque, c'est un peu plus glissant. Et on se rappelle aussi que M. Stroll a vendu la concession Maserati de Laval et de Montréal également à M. Bitton. Donc, voilà, ça s'est fait ça dans la dernière année.
Cinquième véhicule maintenant pour Genesis qui multiplie ses arrivées cette année parce qu'il y a beaucoup de nouveautés. Et j'irai d'ailleurs, dès la semaine prochaine, conduire le nouveau GV80 et la berline G80 du côté de l'Ontario. Mais ce qu'on a dévoilé cette semaine, c'est un VUS un peu plus petit que le GV80 qui vient rivaliser avec des Acura RDX, BMW X3, etc. Là, c'est le GV70.
Oui, exactement. Donc, un VUS un petit peu plus petit qui débarque chez Genesis. Et on a la mauvaise habitude chez Genesis de dévoiler vraiment là, au compte-gouttes chaque information. Donc, pour le moment, on le voit en image. Donc, fini le camouflage. Déjà une étape de plus.
Il y a une belle gueule.
Mais sur le plan technique, on sait pas grand-chose. Bon, on a vu des photos de l'intérieur. Ça donne quand même une bonne idée. Mais
sur le plan technique, il faut s'attendre.
Au 2.5 turbo, oui, mais
Et au châssis de la G70.
Mais il n'y a rien qui a été annoncé non plus. Tu sais, tout se fait très, très, très graduellement. Au moins, on peut le voir. Je trouve que la troisième vitre, là, donc entre le pilier B et le pilier C, c'est pas gros, hein, franchement.
Non, mais je trouve que ça donne un look assez intéressant.
C'est différent. C'est différent.
Moi, j'aime bien. C'est différent. Puis je trouve que les VUS qui se ressemblent tous avec cette espèce de crochet dans dans la lunette de custode sur le côté, on voit ça sur tous les véhicules. Là, c'est pas compliqué. Bien là, on est carrément allé ailleurs à ce niveau-là. Fait qu'on a un design qui est original, qui me plaît énormément.
Puis sinon, pour le reste, ben, c'est très Genesis, là. Donc, un espèce de gros bouclier à l'avant. Les phares qui sont séparés à l'horizontale. Donc, on n'est pas... Il n'y a rien de surprenant à cet effet-là. Là.
J'aime ça parce que tu parles comme si tu étais déjà habitué, sauf qu'on n'en a pas encore vu sur la route vraiment.
Non! Hein? ça, c'est un fait.
Mais on a lancé tellement de nouveaux modèles récemment.
Et qui reprennent tous le même thème. Donc, voilà.
Bon, Germain, t'es allé conduire, on va en parler, là. T'es allé conduire tout un camion cette semaine. Le Ram, mais dans sa version TRX à moteur de 702 chevaux. Ouais. Tu sais, quand t'as besoin de puissance, là.
Ben, écoute, franchement, Antoine, je trouve ça rafraîchissant que FCA ose de cette manière-là. Certaines langues vont dire que FCA fonce tout droit dans le mur. Pourtant, on sait très bien...
Ben là, on saute par-dessus,
en fait. Là, on saute par-dessus parce que... Bon, parlons-en tout de suite, si tu veux. Dans ces lancements-là, hein, peut-être pour informer les gens à la maison, on nous présente toujours le véhicule dans le contexte le plus favorable. Donc, et quand on conduit un véhicule 4x4, ben on le conduit souvent sur un chemin de roche là. Tu sais, c'est jamais très très intense, c'est jamais très très demandant pour le véhicule.
Sauf dans le cas de Jeep. Je dois admettre que dans le cas du Jeep Wrangler, on nous en a mis plein la vue. C'était hallucinant ce qu'on a fait avec ça.
Oui, mais mettons le Crosstrek là qui est un véhicule très, très, très capable que j'ai conduit il y a quelques semaines. Franchement...
Allé rouler sur des routes non pavées, puis c'était pas mal ça. Là.
Oui, voilà. Bon. C'est du gazon humide, là. ça aurait été gênant de rester coincé. Et là, avec le Ram TRX, on n'a pas pris de chance. On est allé sur une piste de motocross et on a, en bon français, jumpé le Ram TRX. Donc, c'est assez impressionnant. On nous avait mis le casque, le harnais, vraiment, beaucoup de précautions.
Dans une autre vie, dans un autre média, ça m'est déjà arrivé, ça, de sauter des obstacles avec des pick-up.
Mais
c'est
moi,
un hobby que j'aime bien.
Mais moi, j'ai pas kinké la cabine de... OK. Donc, poursuivons. Où je m'en allais avec... sur une piste de motocross, bon, blablabla. Et évidemment, recouverte de boue. Je m'attendais à ce que ça donne un coup, là, d'une très grande force à l'atterrissage. Et franchement... Le véhicule est capable. Le véhicule donne l'impression qu'il pourrait faire ça à la journée longue. Le travail qui a été fait dans les suspensions, c'est vraiment, vraiment, vraiment impressionnant.
Ben, faut
cela dit, quand on réalise l'exercice 5 km/h plus vite que ce qui nous est permis, là, on réalise que ben, ça lui en demande un peu plus. Mais on réussit à lever le véhicule de terre là, des 4 roues. Il atterrit, c'est facile. Et sinon, pour le reste, sur la route, ben effectivement, c'est difficile de respecter les limites de vitesse, je te le confirme.
Mais est-ce que ça se conduit décemment, de façon normale, sans qu'on ait tout le temps envie de pousser ça à sa limite? Parce que, peut-être l'avantage d'une Challenger, j'oserais dire. Tu peux acheter une Challenger SRT, puis pas tout le temps avoir envie de mettre le pied au fond, de la conduire de façon normale. Puis un Ram, ben, on connaît la technologie qu'on a là-dedans. Puis je pense qu'on a peut-être un peu oublié d'expliquer c'était quoi le TRX. Alors, imaginez-le comme le rival direct du Raptor.
Mais plus puissant. Une version qui a de l'allure, finalement. Là, on a quoi, 200 quelques chevaux de plus que le
Ford Raptor.
Si j'ai pas les chiffres
devant
moi.
C'est 227 chevaux.
Différence. Parce qu'on est à 702 avec le TRX. On a mis le V8 et mis suralimenté sous le capot. D'ailleurs, on entend le compresseur
volumétrique, ça doit sciller. Là.
Oui, je te le confirme. Puis bon, c'est vraiment pas désagréable. Mais non, ça se conduit... Ça se conduit comme un Ram 1500 conventionnel, je te dirais.
Et ça sera uniquement disponible en cabine double ou cabine allongée aussi, quad cab?
Non, c'est les quatre portes, régulières avec la petite boîte. Là. Il n'y a pas moyen de... Pour le moment.
Tu ne peux pas avoir une cabine allongée, ce qu'on appelle quad cab, au lieu de...
Non, c'est la grosse cabine.
Là. OK, bon, parfait.
Et la petite boîte, ce qui est assez plate.
Et ça ne consomme pas, ça.
24,7 litres au 100, la cote enregistrée pendant que je l'ai conduit. Évidemment, je l'avais entre les mains seulement quelques heures. Donc, oui, je l'ai écrasé.
24,7 quand même. Hein?
Et donc, oui, je l'ai écrasé à plusieurs reprises. Oui, je voulais voir.
On peut s'imaginer que ça va osciller autour de 20 litres au 100.
Oui, ça descendra pas ben en bas de ça. J'ai bien l'impression. Tu as mentionné le Challenger et le Charger L4,
ouais.
Qui finalement ont la même mécanique. Mais là, de l'avoir dans un véhicule qui est 4x4, on n'a jamais, jamais, jamais le derrière qui se dandine, ce qui est le cas de la Charger et de la Challenger, puisque ce sont des véhicules propulsion.
Ben, en même temps, on l'a pas plus dans le Grand Cherokee puis dans le nouveau Durango. Là,
non, mais c'est une bonne chose.
Peux-tu croire qu'on met cette mécanique-là dans quoi? 5 véhicules disponibles chez FCA maintenant?
Oui, Charger, Challenger, Durango qui va arriver.
Grand Cherokee
Trackhawk, puis Ram TRX.
Encore heureux qu'il ait arrêté la production du Journey. Parce que
et de la Grand Caravane! Donc, un véhicule...
Une Pacifica L4, ça serait pas pire.
Donc, un jouet franchement exceptionnel qui va se vendre comme des petits pains chauds, c'est sûr.
Combien?
C'est 100 000, là, grosso modo, là, parce que c'est 93 000 et personne ne prend ça sans 2-3 options.
Ouais.
Donc, c'est 100 000 $. Oui, c'est beaucoup de sous, mais en même temps, une camionnette pleine grandeur à 100 000, c'est rendu monnaie courante. Donc, voilà.
Incroyable.
Oui.
Où s'en va? On peut quand même se demander où s'en va FCA à sortir des trucs de même pendant que...
On le sait que ça va se vendre, on le sait que c'est payant de rendre...
Oui, mais à un moment donné, il y a une taxe carbone à payer, là.
Il y a
ça me fait capoter de voir à quel point tu as l'impression qu'on vit dans un monde parallèle chez Chrysler.
Ah, on est à contre-courant, c'est trippant. C'est rafraîchissant, mais voilà.
Tu sais, oui, on aime ça, on trouve ça le fun, on est des amateurs de mécanique, de puissance, ce que tu voudras, mais à un moment donné, là, ça n'a pas d'autre choix que de les rattraper. Là.
Éventuellement.
On doit savoir quelque chose. Mais là, on avait annoncé justement cette semaine qu'on s'en venait avec de l'électrification. On l'a dit du côté de chez Jeep.
On nous annonce ça aux 3 mois. Oui.
On l'a dit du côté de chez Jeep.
Arrêtez de nous dire que ça s'en vient, puis amenez-les. Là.
Bon,
de ton côté, tu as conduit un véhicule un peu plus terre-à-terre.
Oui,
mais
4 fois moins.
Mais qui consomme pas moins
4 fois moins.
Là.
Hein, oui. Parce que tu me parlais de 24 litres au 100. Moi, j'ai fait 6 litres au 100. Alors, c'est la Toyota Venza que j'ai présentée à Salut Bonjour mardi dernier. Vous pouvez revoir le clip sur mes réseaux sociaux, sur le site du Guide de l'auto aussi. Écoute, c'est vraiment un produit qui m'a impressionné parce que la Venza, bon, on savait quelle était sa vocation lorsqu'elle y est arrivée en 2009.
Oui, on a encore la vieille image en tête, là.
Et le Venza aux États-Unis, ça s'est pas super bien vendu, mais chez nous, ça a connu beaucoup de succès. D'ailleurs, ça s'est énormément volé. C'était des véhicules qui étaient très volés.
Pour l'exportation, je présume?
En grande partie. Mais on comparait ça un peu avec la Subaru Outback, avec un Nissan Murano, Ford Edge, dans ce genre-là. Mais les Américains n'aimaient pas son côté un peu trop voiture, pas assez camion. Faut se souvenir qu'à cette époque-là,
C'était une Camry familiale.
Oui, c'était une Camry familiale haute sur pattes avec un look assez contemporain, mais on était encore à la croisée des chemins de ce qu'était un vrai multisegment à cette époque-là. Faut se souvenir que Ford avait débarqué quelques années avant avec Freestyle. Qui est devenu la Taurus X. Chrysler avait lancé la première Pacifica.
Qui n'étaient pas des voitures non plus, qui n'étaient pas des camions.
On était dans un entre-deux, puis ça a fonctionné plus ou moins. La Venza n'a pas connu le succès escompté aux États-Unis, mais c'est bien vendu chez nous. Et on a tiré la plug en 2015 aux États-Unis. On en vendait à peine 20 000 dans tous les États-Unis en 2015, pas des farces. À la fin de l'année 2016, on a abandonné au Canada. 5 ans plus tard, on revient avec une deuxième génération parce que là...
Mais une formule totalement différente.
Ben, je dirais pas totalement.
Ben...
Parce que oui, le véhicule est un peu plus haut sur pattes. C'est un peu plus...
Mais il s'assume pleinement comme un VUS. Là.
Oui, sauf que c'est la même formule qu'avant. plateforme de Camry,
oui.
Technologie, bon, c'est la plateforme TNGA, là, technologie empruntée à plusieurs produits Toyota, donc la mécanique du RAV4, hybride seulement.
Oui.
Bon, un véhicule qui n'a pas une allure de camion carré VUS, tu sais, on se la joue.
Ça déborde pas de testostérone, là.
Non, mais ce que j'aime, c'est qu'on se la joue Lexus, mais sans toutes les fioritures puis les coups d'épée qu'on a dans le design de Lexus. Donc, ça donne un véhicule qui est beaucoup plus élégant, beaucoup plus homogène, qui risque de vieillir beaucoup plus facilement aussi. Et à bord, je dirais, c'est la même chose. Un niveau de finition carrément comparable avec ce qu'on a chez Lexus, mais sans se donner pavé tactile avec un système informatique incompréhensible. Tout est fluide, tout est ergonomique, c'est parfait. Un véhicule très silencieux, je vous l'ai dit, ça roule à 6 litres au 100.
Ça, c'est exceptionnel, là, parce qu'on a un VUS intermédiaire, finalement, entre les mains.
Ben oui, et 220 chevaux, ce qui est très honnête. Moi, honnêtement, là...
C'est quand même moins puissant que les concurrents, là.
Oui, si tu compares avec un Ford Edge 4 cylindres, 2 litres turbo, qui fait 250 chevaux, tu as un peu moins de puissance, c'est vrai. Mais tu consommes 40 % moins d'essence.
Oh, c'est,
on s'entend,
c'est exceptionnel.
Là, c'est 45 % moins d'essence qu'un Blazer ou un Murano à moteur V6. Donc, tu sais, on est complètement ailleurs avec un véhicule qui est confortable, qui est polyvalent. Moi, j'ai vraiment apprécié, puis je suis persuadé que ça va se vendre. C'est pas donné, là. On parle de 36, 37 000 à 48 000 avant les taxes, bien sûr. Donc, c'est un prix moyen dans ce segment-là. Mais contrairement à un Chevrolet Blazer, ça va garder sa valeur. Ça va...
contrairement au Chevrolet Blazer, ça va se vendre.
Oui, il y a ça aussi. Oui, d'ailleurs, puis il y a déjà une pénurie de ce modèle-là,
ben oui,
là, parce que les gens veulent avoir des hybrides efficaces, puis on se rend compte que c'est le meilleur des mondes pour la moyenne des automobilistes que d'avoir un véhicule qui va rouler à 6, 7, 7,5 l'hiver, 8 peut-être, là, mais dans un gros maximum. Moi, j'ai fait 6 litres au 100 sans forcer. Là.
Ben oui.
Fait que c'est carrément impressionnant. Ça consomme un peu plus sur l'autoroute qu'en ville, évidemment, parce que c'est une hybride.
Ouais.
Mais c'est quand même une machine bien, bien, bien impressionnante.
Merci, Antoine.
Antoine Joubert, Germain Goyer. Des vrais gars de char. Le guide de l'auto.
Germain, cette semaine, une nouvelle ambassadrice pour un nouveau véhicule qui débarque sur le marché. Ça commence à être à la mode, hein, avoir des ambassadeurs ou des porte-parole distincts pour le marché du Québec. On est en ligne avec Karine Vanasse. Bonjour, Karine.
Bonjour, Karine. Bienvenue parmi nous.
Bonjour, Antoine.
Bon, nouveau défi pour toi parce que tu as été consacrée ambassadrice pour le Nissan Rogue, qui est un véhicule super important pour notre marché. Premièrement, je pense qu'on peut te demander en quoi consiste ton rôle, parce que c'est pas un rôle de porte-parole officiel, mais bien un rôle d'ambassadrice. Il y a quand même une nuance entre les deux.
Bien, en fait, oui, pour le moment. Donc, c'est vraiment d'être présente pour propager la nouvelle de l'arrivée du nouveau Nissan Rogue, parler des différents aspects là, du nouveau modèle redessiné, tout ça. Donc, il y a différentes campagnes. Les gens voient déjà la campagne qui tourne à la télé en ce moment. Donc, c'est vraiment pour s'assurer là, que l'arrivée de ce nouveau modèle-là, qui est un modèle, comme tu mentionnais là, au début, là, qui est un modèle vraiment apprécié des Québécois depuis longtemps aussi.
Ouais.
Je pense qu'ils voulaient s'assurer, là, Nissan, que c'est ça, que la nouvelle de ce nouveau modèle-là, que l'arrivée du nouveau modèle était vraiment bien entendue par tous.
Et pourquoi tu as accepté d'être associé à une marque automobile comme Nissan?
Mais tu sais, dans le fond, un peu comme à chaque association, soit avec une compagnie d'ici ou une compagnie d'ailleurs, pour moi, c'est toujours un peu le même processus là, de s'assurer c'est, est-ce que c'est une compagnie qui a des valeurs qui ressemblent aux miennes, autant dans le produit que la façon de parler du produit aussi. Dans Rogue en particulier, bon, évidemment, il y avait le fait que ce soit Nissan. Donc, c'est une compagnie en laquelle j'avais vraiment confiance. Pour ce qui est du Rogue, ben il y avait quand même des particularités qui me rejoignaient aussi par rapport à la polyvalence du véhicule. J'ai toujours aimé me donner, moi, l'impression que j'avais la liberté de passer d'un événement, disons, plus glam à une aventure aussi, une escapade en nature ou peu importe. Donc, d'avoir l'impression que moi, j'avais juste à changer de voiture, mais de souliers, mais que ma voiture, elle, pouvait suivre là, selon les activités aussi. Donc, je pense que c'est la raison pour laquelle plusieurs des Québécois vont vers ce choix-là. Donc, il y a une élégance autour de la marque Nissan, Nissan met souvent de l'avant que c'est, en fait, eux, ils prennent souvent l'innovation puis la rendent accessible au public plus large. Ça, je trouvais ça bien aussi. Comme comédienne, j'ai souvent parlé à un public assez diversifié en même temps.
Ouais.
Les gens, quand ils se tournent vers des projets auxquels je participe, puis souvent, ils sentent que les projets sont choisis selon la qualité que je pressens que le projet va avoir. Des fois, c'est ça, on y va d'instinct, mais je pense qu'il y a quand même un certain gage de qualité quelque part là, qui s'y retrouve. Donc, j'avais l'impression que je pouvais, en confiance, m'associer avec Nissan puis pour le nouveau Rogue.
On sait que le vert est à la mode, Karen, et là, je ne fais pas référence à la couleur, mais le fait que le Rogue ne soit pas disponible pour le moment en version hybride ou qu'il y ait même une version électrique, est-ce que ça te donnait peut-être un peu moins le goût de t'associer à un véhicule là, entre guillemets, un dinosaure à moteur à essence?
Ou du moins traditionnel dans son approche mécanique, oui.
Ben oui, on ne dira pas dinosaure, Antoine. On change. Non, traditionnel, c'est correct, mais...
On va le reprendre, fait, Germain, là, hein? C'est ça.
Je fais des choix dans ma vie, je pense, comme bien des gens, bien des Québécois aussi. On fait les choix qui sont réalistes dans notre réalité de vie. Moi, je sais qu'une voiture électrique, j'aurais aimé faire le choix dans le passé. J'ai plusieurs personnes autour de moi qui font ce choix-là, comme plusieurs. Je regarde, je me dis que oui, malgré des fois des super aubaines de faire un choix vers des retours que le gouvernement a offert à certains moments, mais en même temps, dans la réalité, moi, avec le quotidien que j'ai, avec les déplacements, évidemment, là, cette année, dernier mois, voyager aux États-Unis, c'était pas réaliste, mais tu sais, le nombre de fois que j'ai fait Montréal, Los Angeles, avec un véhicule électrique, ça n'aurait pas été possible. Donc, moi, j'y vais avec ma réalité. Il y a des choix que je fais ailleurs dans ma routine du quotidien et dans mes habitudes aussi pour faire ma part. Par contre, je suis consciente que je suis pas la seule à ne pas pouvoir encore faire un choix vers une voiture électrique. Ça s'en vient. De toute façon, on voit avec Nissan la différente offre qu'ils ont aussi de voitures électriques puis les démarches qu'ils font,
ouais,
qui est mis de l'avant, tout ça. Donc, on le sait que c'est la compagnie a ça à cœur. Par contre, je pense que pour ce qui est de la clientèle du Rogue, oui, on va être tous heureux quand la possibilité va arriver d'un Rogue électrique. Puis je vais être la première heureuse quand cette option-là de voiture va correspondre à mes besoins et à ma réalité aussi. Donc, mais je pense que je suis pas la seule à me retrouver dans ce dilemme-là de me dire,
ouais,
j'ai hâte de pouvoir dire oui à une voiture électrique. Mais malheureusement, ce ne serait pas réaliste pour moi de pouvoir vraiment aller vers ce choix-là encore pour le moment. Mais ça s'en vient. Je pense que c'est ça qui est beau, en fait, de voir aussi que les compagnies continuent à vouloir
développer
un modèle de l'avant qui va pouvoir correspondre aux besoins aussi là, d'une clientèle qui a des besoins spécifiques. Là. Ouais.
J'ai compris en début d'entrevue que, on t'avait parlé de ton rôle d'ambassadrice et tu m'as dit oui, pour le moment, ça s'arrête à ça, ce qui veut dire qu'éventuellement, ça pourrait prendre de l'ampleur. Et là, je ne tente pas de te mettre des mots dans la bouche, bien sûr, mais j'aimerais ça aborder le fait que le Québec particulièrement engage beaucoup ces temps-ci, du moins c'est mon impression, d'ambassadeurs ou de porte-parole distincts du reste du Canada pour ces produits. Et c'est toujours une situation... c'est un choix qui doit être très réfléchi de la part des entreprises. On a vu ce que ça a donné avec, par exemple, récemment avec Marie-Pierre Morin.
Il y a eu des cas qui ont été peut-être un peu plus florissants. Là. On peut penser à Martin Matte avec Honda et la Civic, entre autres.
Ouais, ouais.
Mais effectivement, tu sais, le cas de Marie-Pierre Morin avec Buick, c'est une histoire qui finit mal.
Puis des fois, c'est des situations qu'on ne contrôle pas. Je pense à Véronique Loutier dans le temps avec Suzuki. Bon,
ouais,
elle s'était retrouvée dans le contexte avec son père.
Et la Suzuki Véro. Non?
Oui, c'est ça. Ça, c'était génial. Mais bref, crois-tu qu'un porte-parole distinct pour le Québec, c'est important? Donc, en quoi comment tu vois ton rôle à ce niveau-là? Et évidemment, est-ce que les squelettes dans le placard que tout le monde a ont été étudiés avant que tu acceptes ce rôle-là? Parce que c'est pas toujours évident, là.
Je pense que dans le contexte actuel, s'il y avait des squelettes à trouver dans mon placard, c'est sûr que Nissan puis la relation, la boîte de com autour aurait vraiment trouvé ça.
Ouais.
Je pense qu'effectivement, une compagnie, pas juste pour les véhicules automobiles, hein, c'est le cas pour plusieurs compagnies qui font affaire avec des partenaires. C'est sûr que il y a des contrats qui sont signés maintenant qui couvrent ce genre de sortie-là aussi. Ça a toujours été, c'est pas récent, hein, que les compagnies font affaire puis font appel avec des personnalités connues pour parler d'un produit, d'un projet.
Non.
Souvent, on est des porte-voix, on dit porte-parole, mais c'est vrai que c'est ça aussi. C'est-à-dire, bon, mais cette personne-là a une visibilité, a souvent une crédibilité aussi. Tu sais, des fois, comme tu sais, une compagnie comme Nissan, les gens connaissent Nissan, les gens, mais est-ce que des fois, c'est juste une façon de faire de faire circuler un message et de s'associer avec une personnalité qui représente les valeurs, encore une fois, c'est ça, de la compagnie. Moi, je me souviens, j'ai grandi avec Marie-Soleil Touga puis Toyota, donc ben c'est oui. ça, ça fait... Je pense que pour le public québécois, pour le Rogue en particulier, les ventes du Rogue, le pourcentage de ventes du Rogue au Québec par rapport au reste du Canada sont vraiment significatives, assez pour que ce soit vraiment justifié d'avoir un porte-parole et un visage qui mettent de l'avant l'arrivée du nouveau Rogue. Mais de toute façon, si je ne me trompe pas, au Canada anglais, pour le moment, même par rapport à la sortie du nouveau Rogue, il n'y a pas de porte-parole à proprement dit au Canada anglais. Donc, le marché... du car system au Canada anglais, je le vis moi pour faire partie de séries comme Cardinal au Canada anglais, qui ouais. sont des séries hyper populaires. Donc je vois la différence. C'est la chance qu'on a d'avoir cette culture-là, ce star system-là qu'on a bâti au fil des ans parce qu'on avait un marché qui était vraiment propre à nous. On n'était pas directement en compétition avec les États-Unis ni avec l'Europe. Donc c'est une belle bulle qu'on a, c'est une chance qu'on a. Et honnêtement, tout ça fait quand même bien rouler une économie dans le sens que toutes les boîtes de pub, les différents, les produits qui
c'est
peuvent
se
tourner.
Ouais.
J'étais porte-parole cette année d'une compagnie, entre autres, porte-parole, ambassadrice d'une compagnie de smoothies cette année, mais c'est deux jeunes Sherbrookeois qui ont parti ça.
Okay.
Donc, la visibilité qu'on a, oui, parfois c'est au profit d'une compagnie vraiment de prestige comme Nissan. Parfois, c'est au service d'une compagnie qui, elle, va bénéficier d'un coup de publicité plus grande qui va la faire connaître. Fait que ça varie. Des fois, les raisons pour... les raisons derrière le fait de venir nous chercher comme porte-parole et ambassadeur peuvent varier, mais je pense que ça démontre juste la richesse du star system puis du marché qu'on a développé ici. En fait, je trouve que c'est une belle chance qu'on a. Les Canadiens anglais n'arrêtent pas de nous demander c'est quoi la recette de tout ça. Fait que je pense que c'est bien qu'on célèbre ça plutôt que si on n'avait pas tout ça, on serait envahi de visages qui viennent pas d'ici pour parler de produits qui viennent pas d'ici. Puis quand les compagnies d'ici voudraient faire parler d'elles, ben il y aurait personne pour en parler. Donc voilà.
Et pour le Canada anglais, ben on propose à Nissan de peut-être être un peu plus créatif que Hyundai, par exemple, qui réutilise Guillaume Lemaitre-Vierge, mais comme inconnu finalement, parce que c'est pas une vedette dans le reste du Canada, mais c'est les mêmes publicités qui sont utilisées.
On l'appelle GLT au Canada anglais.
Oui, parce que Guillaume Lemaitre-Vierge, avec un accent anglais, c'est pas mal difficile à prononcer.
Bon, évidemment...
Mais à voir comment Guillaume montre fièrement ses participations à différentes publicités au Canada anglais, je pense qu'il a l'air assez fier, en fait, de faire partie de ces campagnes-là. Mais c'est sûr que, de toute façon, au Canada anglais, il y a vraiment un travail à faire. T'sais, moi, c'est une des chances que j'avais, puis une de mes plus grandes fiertés et réussites, je vous dirais, là, de faire partie d'une série canadienne qui fonctionnait autant puis qui était respectée et qui était reconnue comme étant une série canadienne. Je vous dirais, avec le Rogue, si je pouvais être représentante du Rogue, ambassadrice du Rogue...
À l'échelle canadienne.
C'est pas bonne affaire. Je serais très heureuse de ça parce que ça voudrait dire que les Canadiens anglais portent attention à ce que des gens d'ici, même des francophones, leur disent. Donc, si un jour je me retrouve dans les publicités du Rogue et de Nissan au Canada anglais, je serais la première heureuse de ça. Ça veut dire qu'il y a une façon, pas parce que c'est recyclé, mais si je vois que c'est parce que le but est vraiment d'essayer de me montrer comme Canadienne, je vais trouver ça très bien, au contraire.
Est-ce que, à la base, tu es quelqu'un qui est passionné par le monde automobile? As-tu déjà possédé des voitures qui t'ont interpellé particulièrement? Et qu'est-ce qui t'interpelle dans le nouveau Rogue particulièrement? Que tu conduis déjà,
mais
d'ailleurs.
De mon côté, la route a toujours fait partie quand même de ma réalité. J'habitais pas à Montréal quand j'étais plus jeune, puis je commençais à travailler. Donc, ça a été le train au départ. Dès que j'ai pu conduire, je vous dirais que la voiture a été assez pratique. Mais c'est une des choses qui me manque le plus en ce moment. Tout à l'heure, je vous mentionnais mes voyages Montréal-Los Angeles.
Sur la route, là.
De ces voyages-là. Pardon?
C'est des voyages Montréal-Los Angeles par la route.
Oui, mais pas en grosse brune, Antoine.
Non, c'est ça.
Mais donc j'ai toujours, quand j'ai pu favoriser un déplacement sur la route dans ma voiture, je me suis déplacée beaucoup à travers les années. J'ai eu un pied à terre toujours au Québec, mais ma voiture était vraiment ma maison. T'sais, autant quand j'étais jeune, mon sac à dos, quand je me retrouvais sur les plateaux de tournage, puis je retournais après ça chez mes parents, c'est ça. Mon pack-sac était bien important, mais ça s'est transformé en ma voiture par la suite. Donc c'est vraiment pour moi, je sais pas, c'est une façon pour moi là, vraiment de me retrouver, d'être capable de faire les transitions entre une place, un tel rendez-vous, un tournage à l'autre, avoir l'impression que je suis dans ma bulle, que j'ai la paix, si j'ai besoin de m'en aller, découvrir une place, m'en aller en forêt, découvrir, tu sais, les moments Montréal-Losangeles ou Montréal-New York quand j'y travaillais.
Ouais.
Si j'avais la chance de le faire au lieu de prendre l'avion, c'est toujours ce que je priorisais. Là. Il y a une liberté, il y avait une autonomie que j'aimais aussi. Donc, j'ai toujours eu des modèles qui peuvent ressembler quand même aux Rogue dans leur fonctionnalité, là, dans leur esprit, dans leur... on comprend que le Rogue met de l'avant, c'est ça, comme je vous disais tout à l'heure, c'est la polyvalence de ce qu'on peut être, la multiplicité de ce qu'on peut vivre à l'intérieur d'une même journée ou d'une même semaine. C'est ça, aller à un rendez-vous, un souper, plus qui demande d'avoir... des fois, où on veut faire... je vais avoir l'impression que j'arrive avec ma voiture puis que... On comprend que, comment je dirais ça, mais à Los Angeles, entre autres, en particulier, je vais vous dire, tu sais, j'ai bien des amis qui habitaient dans des tout petits appartements, mais dont la voiture, c'était vraiment important. Il fallait que tu arrives au rendez-vous en montrant que toi, tu avais ta bonne voiture. Quand j'étais une des premières, en fait, au Québec, là, à conduire le Rogue, je trouve qu'il y a ce look-là qui fait que si tu es allé en forêt, ben, t'as juste à le nettoyer, puis tu arrives à ton rendez-vous du lundi matin, puis je trouve qu'il y a une belle gueule, il se présente bien. Puis en même temps, encore une fois, il me donne l'impression que si à un moment donné, en fin de journée, je me dis « OK, là, c'est correct, là, j'ai le temps, là, j'ai rien, là, puis là, j'ai un fils, évidemment, maintenant, ça change les choses un peu aussi
oui.
dans la spontanéité, mais j'ai la possibilité d'aller où je veux, de mettre ce que je veux dans ma voiture, si c'est que ce soit des paquets d'enveloppes de vêtements parce que j'arrive d'un voyage, parce que je trouve un meuble sur Kijiji, puis je vais aller le chercher. Il y a une autonomie, sans emprunter le trailer de mon père en arrière. Donc, il y a une autonomie aussi, puis ça me permet une spontanéité, une autonomie, une élégance qui fait partie de ce que je recherche, moi, chez un véhicule, quand je fais le choix pour un véhicule.
Bon, là, évidemment, tu es pas mal exclusive sur la route avec le nouveau Rogue, mais évidemment, on sait que c'est un véhicule qui va connaître du succès. Fait que rapidement, tu risques de te fondre dans la masse et on te reconnaîtra plus. Est-ce que tu vas continuer, évidemment?
Je pense que même si on a plusieurs, on va les remarquer pareil.
Ouais, ah, c'est une bonne ligne, ça. Nissan va être content.
Oui.
mais honnêtement...
Mais je vous dis déjà, sur la route, hey, moi, ça me... On blaguait avec les gens de Nissan, là. Mais vraiment, là, je vois les gens se retourner. Là. C'est un modèle qui attire l'attention là, pour le moment. C'est sûr que les gens ne l'ont pas beaucoup vu,
ouais.
mais les gens se retournent. Là. Je le vois.
Alors, j'imagine qu'il faut s'attendre au-delà des publicités qui ont été tournées. Il faut s'attendre à ce qu'on te voit sur tes réseaux sociaux, par exemple, au quotidien avec un Nissan Rogue. Est-ce que tu as un plan à ce niveau-là pour publier des images, pour le mettre en valeur? Est-ce qu'on t'a fait part des caractéristiques qu'on a dans ce véhicule-là qui sont innovatrices par rapport à ce qu'il y a ailleurs? Et est-ce que tu as dû étudier, par exemple, ce qui se fait ailleurs dans l'industrie pour réussir peut-être à mettre en lumière ce qui le démarque?
C'est sûr que je te dirais que je n'ai pas ton expérience à toi.
On ne te demande pas ça non plus, je pense pas.
Aussi poussé pour se développer.
Ouais.
Mais une des choses que j'apprécie déjà beaucoup, c'est l'affichage tête haute, honnêtement, là, je trouve vraiment que c'est... on est tous pareils. Hein? Quand on s'en va quelque part maintenant, on regarde où on s'en va, même si c'est sur l'écran.
Ouais.
On fait attention de ne pas aller sur le cellulaire, mais c'est bon, le GPS, déjà, OK, c'est bien, mais l'affichage tête haute, les informations, que ce soit pour la vitesse, que ce soit pour les directions à suivre, ça, pour moi, là, c'est une révélation. Là. Je trouve vraiment que la concentration vers l'avant de la voiture est vraiment plus, juste au point de vue sécuritaire. Là. Je veux dire, c'est le fun, on est bien guidé, mais je trouve qu'au point de vue sécuritaire, c'est vraiment un gros, gros plus. Donc ça, c'est la première chose. Je me rends compte, en fait, pourtant, je suis une très bonne conductrice, mais j'ai eu des véhicules avec des caméras de recul. Mais là, d'avoir la caméra qui me donne la vision...
360.
Oui, c'est ça, 360, ouais. Où on voit vraiment la voiture dans son environnement autour, avec les multiples caméras qui sont autour de la voiture. Donc, quand il y a le temps de se stationner, de se positionner, j'ai habité Montréal pendant des années, New York, Los Angeles, je suis capable de me stationner en parallèle efficacement, disons. Mais je me rends compte que je suis capable vraiment de le faire avec encore plus de confiance. C'est ça, je trouve que c'est vraiment plus facile avec ces caméras-là. Donc, ça, c'est une deuxième chose. Donc, vous parliez de la vitesse tout à l'heure. En début de l'entrevue, moi, c'est pas... par rapport à la vitesse, on parle des fois de, justement, la consommation d'essence, tout ça.
Ouais.
Moi, une des choses que je trouve qui va... je trouve que la vitesse répond vraiment très bien quand je veux accélérer, quand je veux me déplacer. Mais en même temps, c'est sûr que je suis pas le genre à prendre plaisir à faire 145 sur l'autoroute. Là. Ça, non, mais je l'ai pas testé. Je sais pas comment il réagit.
Ça tombe bien, c'est pas permis.
C'est ça, ça tombe bien, c'est pas.
Mais vraiment, quand vient le temps de soit dépasser, quand vient le temps de, quand de vraiment prendre son gaz, comme on dit, là, je trouve vraiment que la voiture réagit bien. Je trouve que donc ça, par rapport à la vitesse, par rapport à l'impression d'avoir une voiture qui a une certaine une tenue de route, mais aussi un certain power aussi, ça je le sens.
J'oserais dire qu'à ce niveau-là, le Rogue s'est beaucoup amélioré par rapport au modèle de l'an passé, c'est-à-dire qu'il est beaucoup plus stable sur la route. Au niveau des suspensions arrière, on l'a retravaillé pas mal. Moi, je trouve que la plus grosse amélioration, c'est son insonorisation. Autant l'ancien n'était pas vraiment bien insonorisé, autant le nouveau se démarque à ce niveau-là. Mais on a retravaillé...
Parce que tu me donnes des trucs, vas-y,
parle. Oui, c'est ça, je te donne des arguments de vente. Mais on a retravaillé la programmation de la transmission aussi pour qu'effectivement, selon tu parlais, c'est pas que c'est un véhicule rapide, c'est pas la vocation de ça, mais on a l'impression qu'on a un couple initial qui est plus présent, plus rapidement, même si la puissance est à peine supérieure à celle de l'ancien modèle. Donc ça, ça vient impacter sur l'agrément de conduite qui était certainement pas la force de l'ancien modèle. Et
la boîte CVT, c'est ça, c'était pas une de ses grandes qualités, là.
C'est pas une de ses grandes qualités. Ça l'est pas encore parce qu'honnêtement, chez d'autres constructeurs, en ce qui me concerne, tu as des transmissions qui sont plus vives, plus dynamiques, mais l'équilibre d'ensemble du nouveau Rogue, c'est ça qui fait sa force. Puis évidemment, ben, ça reste le prix. Mais ça, je suis pas sûr qu'elle l'a payé bien cher, Karine, son Rogue. Ça, c'est l'autre histoire.
D'après moi, c'était dans les petits caractères à la fin.
Mais ce que je trouve bien de ça, là, sincèrement, c'est de dire aussi que peu importe, de toute façon, on vit toutes nos difficultés en ce moment avec ce qui se passe aussi, peu importe le compte de banque qu'on avait au départ. Mais ce que je veux dire aussi, c'est que, tu sais, des fois, peu importe le budget qu'on a, peu importe on n'est pas obligé d'aller, tu sais, j'ai déjà été là-dedans, moi, de me dire, mais il faut absolument, justement, je vous parlais de Los Angeles, avec quelle voiture t'arrives. Ouais, mais de faire un choix intelligent avec l'argent que ça, là, c'est bien aussi, là. Peu importe le salaire annuel que tu fais, là.
Ah, ben oui.
Donc, ça, pour moi, ça, je trouve ça intéressant. Puis, mais juste te dire, vous poser, en fait, comme question, ce qui fait en sorte que le Rogue, parce que je les vois évidemment de plus en plus sur la route, des anciens modèles, mais je l'espère de plus en plus le nouveau modèle aussi. Mais qu'est-ce qui fait en sorte, selon vous, qui fait en sorte que les Québécois se tournaient vers ce modèle-là? Parler d'équilibre, mais c'est quoi aussi?
Ben, c'était son prix, là.
Son prix, oui, ouais. Mais son prix, il y avait beaucoup de marketing. Nissan est une compagnie qui, de façon générale, est très, très forte au niveau de la mise en marché et particulièrement au Québec. Et on a travaillé très fort pour mettre des promotions de l'avant sur des locations à des prix planchers.
C'est un segment qui, à la base, est très, très, très populaire.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire tout se vend bien dans ce segment-là. Là. Peut-être pas chez Jeep et chez Chevrolet où on a un peu plus de misère dans ce segment de véhicules. Là, qui est le VUS compact. Mais Nissan s'est démarqué là-dessus et on a une rétention de clientèle qui est là. C'est-à-dire que si quelqu'un a loué un Rogue sur une période de 4 ans, sur un terme de 4 ans, bien, on a une stratégie qui vise à rappeler le client au bout de 3 ans, par exemple, et de dire, regarde, je vais t'en revendre un autre, tu vas avoir une aubaine. Puis c'est une stratégie qui, des fois, est discutable selon les paramètres de l'entente qu'on veut offrir, parce qu'on le fait chez tous les constructeurs. Mm-hmm. Mais Nissan s'est démarqué là-dessus. Et c'est pas pour rien qu'il a été... le Rogue a été le meilleur vendeur au Québec. Je crois que c'était en 2017, ma mémoire est bonne, 17 ou 18, je me souviens pas. Mais devançant le CR-V, le RAV4, qui sont des piliers.
Le RAV4 qui est revenu après, là.
Ah oui, c'est ça. Mais le Toyota est là parce qu'en plus, c'est un véhicule qui est construit au Canada. Donc, il y a ça aussi. On veut le mettre de l'avant encore plus.
Ouais.
Mais Nissan, je pense qu'au Québec, on est super bien positionné avec ce véhicule-là. Puis c'est peut-être plus à l'échelle canadienne où il faut travailler un peu plus fort. Alors, on a engagé une porte-parole, non.
Mais c'est peut-être aussi pour consolider la place qu'on a dans le marché du Québec parce que, justement, on a un marché important puis on ne veut pas le perdre. Là.
Mais c'est un véhicule... Non, mais j'allais dire, c'est un véhicule super important pour le marché du Québec parce que ça demeure le plus gros vendeur du constructeur.
Ben oui, puis tu sais, tout à l'heure, quand vous me posiez la question là, par rapport aux différentes compagnies, quand il vient le temps d'aller chercher un ambassadeur ou un porte-parole, aller voir les squelettes dans le placard, tout ça, mais nous, en tant que personnalité publique, on a un travail à faire, nous aussi. Moi, j'ai une responsabilité par rapport au message que je dis aux gens. Oui, les gens ont tendance à penser à m'accorder une certaine crédibilité, mais moi, cette crédibilité-là, il faut que je la maintienne. Donc, c'est sûr que moi, par le choix de dire oui à Nissan, c'est aussi dire oui à une compagnie qui me donne l'impression de pas avoir de squelette dans le placard qui vont sortir pendant que mon nom va être associé à cette compagnie-là. Ça va dans les deux sens aussi, hein. Tu sais, c'est pas juste moi envers eux, c'est eux envers moi aussi. Donc, moi, tu sais, quand je parlais avec des gens qui ont conduit des Nissan, tu sais, c'est la satisfaction que je perçois. Puis donc, si vous dites tout à l'heure les stratégies de vente, tout ça, oui, mais en même temps, quand le client revient, c'est parce qu'il y a une satisfaction qui est là aussi. Moi, ça, en tant que porte-parole potentielle, ambassadrice, tout ça, ça me rassurait d'aller de l'avant avec une compagnie qui a cette image-là aussi de confiance.
Bien, on va te souhaiter évidemment longue carrière, longue association avec les gens de Nissan. Et en terminant, je veux peut-être seulement mentionner que l'an dernier, Nissan commercialisait un Rogue Midnight Edition. On pourrait leur proposer pour 2021 de lancer un Blue Moon Edition pour le remplacer.
Toujours le mot juste. Hein,
ça,
voilà.
Je trouve que ça serait...
Ça cadrerait bien
oui,
avec
absolument.
La nouvelle ambassadrice que tu es.
C'est la Blue Moon le 31 octobre cette année.
Ah oui, bon, on apprend tous les jours. Voilà, merci beaucoup.
J'espère que ça va être une belle aventure. J'espère que ça va être une belle aventure. En tout cas, pour le moment, c'est une belle équipe que je découvre. Puis, tu sais, au final, c'est ça, là, tu sais, c'est avec quelle équipe on travaille. Est-ce que je m'amuse? Est-ce que je crois au produit voilà. que je mets de l'avant? Est-ce que les gens vont être contents d'en entendre parler? Puis d'avoir l'impression que, OK, Karine, elle conduit. OK, ça veut dire quoi? Donc, tout ça. Donc, je pense qu'on va voir comment tout ça va évoluer. Mais je suis bien contente d'avoir débuté cette aventure-là avec eux de cette façon-là.
Donc, ne vous surprenez pas si vous voyez des photos de Karine Vanasse avec un Nissan Rogue quelque part sur les réseaux sociaux.
Ça se pourrait que ça arrive. C'est
exactement.
Tout à fait normal. Merci beaucoup, Karine.
Bien gentil d'avoir pris le temps. OK, bye-bye.
Le guide de l'auto. Avec Antoine Joubert et Germain Goyer.
Antoine, t'es arrivé avec un constat cette semaine après avoir observé l'industrie automobile dans les dernières semaines, dans les derniers mois, la disparition de la plupart finalement des voitures sous-compactes, la disparition aussi de versions de base de voitures et de véhicules compacts, t'amène à poser la question, est-ce que le consommateur moyen a encore les moyens justement de se procurer un véhicule neuf?
Ou aura encore les moyens d'ici quelques années? Parce que là, on le sait, Honda a abandonné, je prends Honda par exemple, abandonné sa Fit, abandonné les Civic de base à boîte manuelle, ce qui fait que le prix d'entrée d'un véhicule chez Honda en 2021, ça sera un peu plus de 25 000 $. Chez Ford, on est à un peu
Alors qu'il y a quelques années, par exemple...
On était à 17 000.
Oui, voilà.
Bon.
Et on peut imaginer que c'est dans une quête de plus grande rentabilité, finalement,
qu'on prend cette
tangente-là.
En fait, tu sais, moi, je regardais Ford aussi le prix d'entrée d'un EcoSport 2 roues motrices à moteur 3 cylindres était à 26 000 de base. Plusieurs constructeurs prennent cette direction-là. Et c'est pas compliqué. Le mot s'est passé dans l'industrie. Il n'y a plus d'argent à faire avec des autos à 15, 17, 18 000 $. Et l'objectif ultime, c'est de se débarrasser de tout ça. Et il y a des constructeurs qui vont continuer à avoir quelques offres. Je pense à Nissan qui revient avec une Versa, là. Mitsubishi qui garde sa Mirage sur le marché. Chevrolet a une Spark, mais sa vie sur du temps emprunté, ça va sauter. Même chose pour la Kia Rio. Et sinon, elles ont toutes disparu. Fit. Yaris, Micra, Accent chez Hyundai, c'est disparu. Il y a plusieurs. Chevrolet Sonic, ça n'existe plus non plus. La Cruze, la Focus et Fiesta, c'est tout parti. Pourquoi?
Donc, tous les véhicules, le beau, bon, pas bon. Cher, là.
Alors, on s'est débarrassé de toutes ces voitures-là parce qu'il n'y a plus d'argent à faire avec ça. Mais on l'a fait de façon stratégique, à mon avis, parce que on a réussi à prouver aux gens que ces voitures-là n'avaient plus de succès. Et on l'a fait de façon sournoise. Prends par exemple la Hyundai Accent. En 2016, on vendait 19 000 Accents au Canada. En 2018, moins de 9 000.
Et pourtant...
En 2019, moins de 5 000. Qui est arrivé? Est-ce que c'est la clientèle qui a décidé, moi, je veux plus d'accent?
Non. On est arrivé avec un cours, non.
C'est Hyundai qui stratégiquement offrait des accents à 15 000 $. On a grimpé les prix à 19 000, plus d'offres intéressantes au niveau des financements des locations. Et on est arrivé avec des Kona qui coûtent pas plus cher à fabriquer, ou encore pire avec la Venue, on s'entend, ça coûte pas plus cher à fabriquer qu'une Accent, mais on peut les vendre 3, 4, 5, 6 000 $ de plus. Alors, on a volontairement effectué une transition pour prouver au public que c'était plus intéressant d'acheter des voitures sous-compact et qu'on était mieux d'acheter des petits VUS. Et en réalité... ce qu'on a fait, c'est forcer le consommateur à faire une transition parce que on aurait très bien pu continuer à vendre une Accent à prix plancher puis à satisfaire les besoins d'une clientèle, mais on voulait plus le faire parce que c'était plus payant. Alors, ce qu'on a décidé de faire, c'est de continuer à fabriquer une Accent, mais en la baptisant différemment, c'est-à-dire en l'appelant Hyundai Venue, en la vendant 4 000 piastres plus cher, puis en faisant croire à la population qu'ils achetaient un camion.
Mais c'est pas tout
on
à fait
ça. Ouais. Alors c'est, la transition s'est faite comme ça, ce qui me laisse croire que d'ici quelques années, des voitures sous la barre des 30 000 $ il n'y en aura presque plus. Il y en a encore quelques-unes, là, des voitures sous la barre des 20 000 pour le moment, mais on compte ça sur les doigts d'une main ou à peu près. Puis sinon, ben, à moins de choisir une version de base que les concessionnaires tiennent même pas, vous êtes à 24, 25 000 pour une Corolla, une Elantra, ce genre de véhicule-là, ou un petit VUS d'entrée de gamme comme un HR-V, comme un CX-3 chez Mazda. Donc, l'industrie gonfle les prix, mais en même temps, faut pas s'en surprendre parce que écoute, on a vendu une Civic au même prix pendant à peu près 20 ans.
Ben voilà.
En 95, t'as acheté une Honda Civic pour 14-15 000 piastres, une berline de base, puis en 2015, t'as le même prix.
Tu sais, les salaires des employés sont plus élevés, le coût des matériaux est plus élevé, donc le coût de production, oui, on a beau optimiser les usines à un moment donné.
Et fabriquer plus d'unités,
ben à un moment donné.
C'est ça. Mais là, on arrive à une croisée des chemins où on n'a pas le choix de passer par là, où les constructeurs automobiles sont obligés d'investir dans de l'électrification qui coûte cher. Donc on ne peut plus vendre des voitures à 15, 16, 17 000 $ Et ce que ça me dit, c'est que pour l'instant, il y a encore quelques offres.
Ouais.
Les gens vont peut-être y adhérer de moins en moins parce qu'on se rend compte que d'acheter une Rio puis d'acheter une Forte, c'est le même prix. Puis souvent, les gens vont à la Forte.
Voilà.
Mais là, il y a encore de la disponibilité de voitures sous-compactes et compactes récentes à prix raisonnable sur le marché d'occasion. Mais d'ici quelques années, ça n'existera plus. Et c'est là que ça va commencer à faire mal parce qu'on va réaliser qu'un véhicule d'occasion de 2-3 ans avec un kilométrage raisonnable en bas de 20 000, il n'y en aura plus. Mais un véhicule neuf en bas de 30 000, il n'y en aura plus non plus. Et ça va faire mal parce que l'industrie est en train de changer complètement. Puis ça, bien, c'est suivi de coûts d'entretien qui sont plus élevés parce que les véhicules sont plus luxueux, plus bons, etc. Fait que,
mais le revenu des ménages québécois, lui, n'a pas augmenté autant,
de 30 %, ça, c'est sûr. Fait que attendez-vous à ce que l'automobile d'ici quelques années coûte très, très cher. C'est ça le message.
Bon, mais sur cette nouvelle, pas nécessairement très réjouissante, on va souhaiter aux gens un excellent week-end.
Ben oui. Salut tout le monde.
Cube Radio.